Au lendemain de Noël, nous retrouvons l'abbé Philippe Beitia. Bonjour.
Bonjour.
La joie de la nativité du Seigneur laisse la place aujourd'hui à la tristesse de la mort du premier martyr de l'Église.
C'est pas tout à fait vrai, puisque la liturgie dira que le Christ qui est né a couronné Saint-Étienne. Le mot Stéphanos veut dire en grec couronne. Donc, bien sûr, on célèbre celui qu'on appelle le proto-martyr, le premier martyr de l'Église, mais on perçoit à travers ce martyr sa victoire dans la foi et son entrée dans la gloire du Christ.
Comment expliquer que la liturgie nous propose du jour au lendemain, finalement, de passer de la naissance à la mort?
C'est-à-dire, c'est un peu tout l'historique de l'implantation de ces fêtes, bon, qui supposeraient de longs développements, parce que bon, l'implantation de la fête de Saint-Étienne le lendemain de la naissance du Christ, de celle de Saint-Jean, mais parfois Jean et Jacques,
Le 27
27,
décembre,
des saints innocents,
le 28.
28. Même dans certains calendriers, on avait Saint-Pierre et Saint-Paul là, mais ça n'a pas pu persister parce qu'à Rome, c'était 29 juin, et que bon, on n'a pas démordu, avec raison. Voilà, c'est une implantation très ancienne de ces fêtes.
Quelle est la raison pour laquelle on a mis la fête de Saint-Étienne au lendemain de la fête de Noël?
Je l'ignore précisément. Mais le fait est que, même si c'est accidentel dans un premier temps, quand les liturges ont fait en sorte de faire des liens entre la naissance du Christ et ces trois fêtes. Alors, le lien avec celle de Saint-Étienne, on va dire que le Christ qui est né, donc le jour de Noël, a couronné Saint-Étienne, peut paraître un peu factice, mais bon, par contre, le lien de la fête de Noël avec la fête de Saint-Jean, qui est l'évangéliste de l'incarnation. Bon, donc là, vous avez un lien fort, et bien entendu, un lien tout aussi fort entre la naissance du Christ et les saints innocents.
Saint-Étienne, c'est le premier martyr de l'Église, vous l'avez dit, mais c'est aussi le premier diacre,
Pas vraiment.
avec six autres.
Non plus. On les qualifie de diacres, mais ce n'est pas la réalité. Actuellement, les exégètes les qualifient les sept. Voilà, on ne donne pas de titre. Les sept, bon, auxquels qui vont répondre, semble-t-il, à un problème déterminé. Ceci étant, bien sûr, il est le modèle des diacres. Modèle des diacres à plusieurs niveaux. D'une part, puisque il a dû s'occuper un peu de l'injustice faite à des pauvres, à des veuves grecques qui n'étaient pas aussi bien servies que des veuves juives passées au christianisme, au service des pauvres. Et on le voit surtout annoncer le Christ, et bien sûr l'une des missions du diacre est l'annonce de l'Évangile, et surtout il a donné sa vie jusqu'au bout, jusqu'au sang versé. Donc voilà, à travers le diaconat, le don de sa vie au Christ, à l'Église, aux pauvres, pour l'Évangile. Saint-Étienne n'est pas vraiment un diacre, mais il en est un modèle. Si on avait à comparer Saint-Étienne et Saint-Laurent, Saint-Laurent, lui, que nous célébrons le 10 août, est un diacre réel. Bon, Saint-Étienne, ce ministère si particulier confié par les apôtres, bon, même si, bien sûr, on le considère.
La tradition le considère comme un diacre.
La tradition le considère comme un diacre, les peintres l'ont revêtu d'une dalmatique, mais historiquement, rien ne nous le dit. Et si on compare avec ce que saint Paul dit dans les lettres pastorales à Tite et à Timothée des diacres, on voit bien que ce n'est pas exactement la même chose. Et bien sûr, vous avez derrière, mais on n'entre pas dans cette question-là, la question de l'évolution des ministères, un peu la situation des divers ministres au début de l'Église et l'évolution des ministères jusqu'à nos jours, qui est particulièrement complexe.
Quoi qu'il en soit, c'est saint Luc qui parle de saint Étienne dans le livre des Actes des Apôtres.
Exactement.
Et qui nous raconte comment il a été choisi, puis comment il va être lapidé. Donc pouvez-vous nous rappeler un peu ce qui se passe ?
Il faut noter qu'il porte un nom grec, Stéphanos. Donc on a probablement affaire à un juif de langue et de culture grecque. Donc il y a une disparité entre les veuves chrétiennes originaires du monde juif et celles du monde grec, dans le partage. Les autres apôtres vont dire, écoutez, ça c'est pas notre boulot, nous on est là pour annoncer la parole, donc il faut que d'autres s'en occupent. Voilà. Il y a un besoin, et l'Église suscite un ministère pour donc répondre à ce besoin. Donc ben voilà, on va chercher des personnes, et puis voilà, on nous dit que voilà, elles sont remplies de sagesse. Et d'Étienne, on nous dit qu'il est rempli de sagesse et d'Esprit Saint. Donc on choisit sept personnes pour s'occuper de ce problème dont on ne parle plus après dans les Actes. Mais on voit Étienne et on voit Philippe, donc deux des sept, si je puis dire, annoncer ensuite l'Évangile. Voilà. Et pour Étienne, il y a des parallèles avec la destinée de Jésus. D'une part, quand il dit que le temple n'est pas vraiment nécessaire, ce qu'on arrive à comprendre pour un juif, quelqu'un qui est originaire de la colonie juive de langue grecque, et quand il dit qu'il voit le Fils de l'homme, on a une espèce de parallèle. Voilà. D'un côté, bien voilà, le complot contre Jésus, et dans sa... on rappelle qu'on dit dans sa passion que... cet homme a voulu détruire le temple, les propos de Jésus concernant le temple, qui n'est plus vraiment nécessaire avec la nouvelle alliance, puisque lui-même est le temple de Dieu, et aussi le fait que quand il déclare, quand le grand prêtre lui dit « Es-tu le fils du béni ?», il déclare qu'il est le fils de l'homme, donc de Daniel 7, le fils de l'homme glorieux, et c'est des éléments qui conduisent Jésus à la croix. Mais pour Étienne, c'est pareil, il y a la critique du temple, le fait qu'il voit le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu, qui mène à sa lapidation, et le martyr d'Étienne. Maintenant, le martyr d'Étienne, on voit en filigrane la passion de Jésus.
Ils ne savent pas ce qu'ils font, et ils pardonnent à ses bourreaux comme
voilà,
le Christ.
À part que c'est inversé. Chez Étienne par rapport à Jésus. Si ce n'est que quand Jésus dit cela, il s'adresse à son père, tandis qu'Étienne s'adresse à Jésus. Ce qui manifeste aussi le fait que le père et Jésus sont sur le même plan dans la divinité. Et bien sûr, dans la liturgie, l'Église va nous faire demander, dans l'oraison, d'imiter saint Étienne dans le pardon des offenses.
Est-ce que c'est saint Paul qui est le bourreau de saint Étienne ?
Bien, on nous dit que Paul gardait les vêtements. Ça veut dire que Paul et qu'il a prouvé ce meurtre. Et on arrive à le comprendre quand on voit ensuite Paul, avant sa conversion, persécuter les chrétiens avec des lettres des grands prêtres et ce genre de choses. Donc voilà, il approuve ce meurtre. Et donc, dans la réflexion théologique de l'Église, ce détail, en définitive, d'aucuns vont mettre la conversion de Paul en lien avec le sang versé de saint Étienne. Voilà. Que le martyr d'Étienne a quelque part obtenu de Dieu la conversion de l'apôtre des nations.
Étienne est lapidé en 44 après Jésus-Christ.
C'est la date qu'on donne, effectivement.
Et ça se passe où ?
Bien, ça se passe à Jérusalem. Pour l'histoire, plusieurs siècles après, en 415, on va découvrir les reliques de saint Étienne. Et dans le monde chrétien de l'époque, ça va être un grand enthousiasme parce que Bien, c'est une partie de ces reliques vont circuler, il va y avoir des conversions, il va y avoir des guérisons, tas de choses, à telle enseigne que jusqu'au Concile Vatican II, on célébrait cette découverte le 3 août dans l'ancien calendrier. Mais ça a été aussi un grand moment dans l'histoire religieuse de l'Église, mais qui montre aussi la puissance de l'intercession du premier martyr.
Merci beaucoup, Abbé Philippe Beitia, et bonne fête à tous ceux qui portent le prénom d'Étienne ou Stéphane.
Voilà, et aux paroisses qui sont
dédiées.
Aux
églises qui sont dédiées.
Voilà, aux églises et aux paroisses qui sont sous sa protection.